Alors, on a un peu de temps pour les questions, pour les remarques, pour les interventions.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore des grandes interrogations idéologiques et politiques au sein des syndicats? Parce que quand on vous écoute, on avait l'impression qu'il y avait des réflexions tout le temps dans les années 60 sur quel courant prendre ou pas. Et aujourd'hui, on n'a pas tellement cette impression. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'on est dedans ou est-ce qu'on n'a pas le recul des années comme dans les années 60?
Non, parce que même
moins,
oui, il faut toujours du recul pour voir ce qui se passait exactement dans les organisations, mais aujourd'hui on a quand même un peu de visibilité sur les débats internes à chaque centrale, et là on a un petit peu une ruse de l'histoire, c'est-à-dire qu'on voit les débats stratégiques qui ont lieu dans la CGT, qu'on ne voyait pas dans les années 70, bien qu'ils aient existé. Il y a eu des débats à l'intérieur de la CGT sur sa stratégie, mais ils n'étaient pas perceptibles de l'extérieur. Aujourd'hui on voit des débats stratégiques dans la CGT, on ne les voit pas dans la CLDT. Et quand on se renseigne un petit peu, on a le sentiment, pour l'instant, d'un débat plutôt éteint. Mais même les débats qui ont lieu dans la CGT sont quand même d'une autre nature de ceux qu'on a connus dans les années 60-70. Parce que dans ces années-là, quand même, moi je pense que c'est aussi ce qui expliquait la force relative des syndicats qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, c'est que les engagements étaient quand même sous-tendus par cette idée de l'émancipation possible. Qu'on était dans une phase de montée de l'aspiration au changement, qu'on était dans une période de croissance, donc la question de la crise, de l'emploi ne se posait pas trop, et donc les gens se posaient des questions qui étaient au-delà de la survie, qui étaient des questions de leur place dans la société, etc. Bon, tout ça a été un peu écrasé par la crise. Aujourd'hui, bah, les questions qui dominent, c'est l'emploi, le salaire, etc., et que le syndicalisme a du mal à se projeter dans des objectifs plus généraux. Et que, dès lors que les ambitions sous-jacentes à l'engagement syndical. Vous savez qu'en France, on ne s'engage pas dans les syndicats pour y gagner quoi que ce soit, hein, en gros. Parce que, bon, c'est pas un booster de carrière d'être syndiqué. On n'a pas accès à des services particuliers, la mutuelle, l'économie sociale, tout ça, et d'accès hors syndicat. Bon, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, mais en France, c'est comme ça. Donc pourquoi les gens... On dit toujours, mais oh, les gens ne s'engagent pas. Pourquoi ceux qui y sont continuent à s'engager dans les syndicats? Elle est là, l'énigme. L'énigme, c'est pas qu'on ait si peu de syndiqués en France, c'est qu'on en est encore. Hein, c'est ça la vraie question. Bon. Et quand on regarde un petit peu avec le recul, ce qui fait que les gens s'engageaient, c'était qu'ils étaient sous-tendus par l'idée d'un progrès possible si on s'en occupait, si on... les croyances. Quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que les syndicats abordent peu ces questions, que le débat politique interne, les grandes perspectives, tout ça, c'est un peu plombé. C'est-à-dire hein. Qu'aussi l'hégémonie du marché... L'hégémonie du capitalisme a un peu écrasé tout ça. Ça va peut-être revenir, mais en tout cas, on n'en est pas là. Et que ça a certainement raccourci la focale du mouvement syndical. Ces débats-là n'ont plus trop lieu. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est bien que le syndicalisme soit moins politisé. Moi, je pense le contraire. Je pense que c'est un facteur de démobilisation considérable, parce que, pas seulement en France d'ailleurs, parce que le fait que le mouvement syndical porte des espérances sociales est plutôt un stimulant de l'engagement et pas du tout... Même si c'est porteur d'opposition, hein, des débats politiques produisent des oppositions, ils sont là pour ça, et qu'il y a une certaine atténuation, un certain abaissement des grands objectifs qui font que les gens... Je pense que ça explique aussi que les gens s'y engagent moins. Enfin, ça, c'est une proposition hein, qui est versée au débat, mais je ne crois pas du tout que la dépolitisation relative des syndicats soit facteur de syndicalisation. Bien au contraire, et je pense qu'ils sont aux prises avec ces problèmes-là. Il y a beaucoup moins de débats très stratégiques. Bon, quand j'évoquais les débats dans la CGT, c'est parce que la CGT a des difficultés qu'elle n'arrive pas à surmonter, qu'il faut qu'elle apprenne à vivre tout seul sans la tutelle du Parti communiste, et que ça prend du temps bon, à construire tout ça. Bon. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec les débats stratégie commune, stratégie autonome, qui étaient des vrais débats politiques. Hein. Et puis ça argumentait, et puis ça obligeait les gens à lire, à réfléchir... À argumenter, etc. Bon, tout ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même le débat dans la CFDT, on m'a rapporté le Conseil national qui a suivi les élections prud'homales, où tout de même, cette organisation a perdu 2,5 points, près de 3 points. 3 points dans une élection prud'homale, c'est pas tout à fait anodin, surtout que dans toutes les élections professionnelles, ou presque, la CFDT se prend des reculs à peu près du même ordre. Il n'y a pas eu de débat, c'était un accident, il y avait tellement d'abstention que ça ne veut rien dire. Enfin bon, on s'est étourdi avec des arguments qui n'en étaient pas. Mais il n'y a pas eu des personnes et monter à la tribune dire « Les gars, il faudrait s'inquiéter, on n'arrive plus à trouver des adhérents, perdez vos élections, qu'est-ce qui se passe ?» Apparemment, même ce simple type d'interrogation, il existe chez un certain nombre de responsables, mais ce n'est pas encore un débat qui arrive comme débat politique à l'intérieur de la CFDT. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant...
S'il vous plaît, est-ce qu'on a des chiffres par rapport justement au nombre de syndiqués par rapport à 1960 et aujourd'hui?
Oui, oui, bien sûr. Alors, le nombre de syndiqués, en valeur absolue, ça n'a pas grand sens, puisqu'il faut comparer ça au nombre de salariés. Hein. Mais en taux de syndicalisation, on a des chiffres, oui. On a des chiffres. Bah, dans les années, ce qu'on a appelé les années d'apogée du syndicalisme, les années 60, le taux de syndicalisation est au-dessus, alors c'est pas très précis, mais est au-dessus de 20%. Aujourd'hui, il est de 8%.
Voilà. C'est ça. Hein.
Donc.
J'avais
8-9% en tête. Oui, non, c'est bon, 8,2, le dernier chiffre d'enquête donne ça, enfin donne 8, même, donne une petite baisse par rapport à il y a 6 ans, même, puisqu'il y a eu deux enquêtes.
Et à partir de quel moment, alors, ça a fortement décru ?
Bah, à partir de la fin des années 70. Hein, à partir de la fin des années 70, et là, dans tous les syndicats en même temps, pratiquement. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la CFDT a beaucoup œuvré dans les années 80 au redressement de son nombre d'adhérents, c'est parce qu'elle a perçu très très vite que les effectifs ont chuté très rapidement après 78. C'est 78 le top. Et après, ça baisse.
Mais c'est pas extraordinaire quand même, 20%.
Non, mais ça, on en a déjà parlé. Si vous voulez, le syndicalisme en France n'a jamais été un syndicalisme de masse. En dehors de périodes, bon, j'ai évoqué tout à l'heure la ruée vers les syndicats de 45-46, mais qui ne durent pas. En fin 47, c'est terminé. Et le Front Populaire aussi, le moment du Front Populaire, il y a eu une ruée vers les syndicats qui durera jusqu'en novembre 38. Dès qu'il y a une défaite de la grève générale de novembre 38, les gens quittent les syndicats. Hein, parce qu'ils ont pas, il n'y a pas beaucoup de stimulants pour y rester. Quand la conviction que ça sert à quelque chose s'en va, il n'y a pas de filet de sécurité. Si vous voulez, aux Pays-Bas, c'est un peu comme en France. En Suède, quand vous n'avez plus envie d'être au syndicat, vous n'y croyez plus, vous y restez quand même parce qu'il y a vos indemnités de chômage qui vont avec. Donc, vous ne partez pas. Enfin, je prends cet exemple, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça marche. On dit, ah, regardez la Suède, ils ont 82% de syndiqués. Ah oui, gros malin, ça veut dire quoi? Bon. Alors, ça ne veut pas dire que s'il n'y avait pas ça, ils seraient à 8% aussi. Hein. Ils ont une assise sociale plus importante que les syndicats français. Mais en France, c'est adossé à aucun autre... service social, si vous voulez. Donc les gens, quand ils y croient plus, ils foutent le camp. Et en France, le grand drame, je le dis souvent ici, le grand drame des syndicats dans les années 80, c'est pas simplement une désyndicalisation comme ça. C'est les ouvriers qui ont déserté les syndicats à partir de 79. On peut trouver la date, c'est très simple. C'est le conflit de la sidérurgie lorraine en mars 79. Un plan de liquidation des usines les plus modernes de la sidérurgie, les derniers investissements faits, décision à Denain et à Longwy de fermeture, un mouvement social extraordinaire qui soulève la région avec des grandes manifestations, des grèves à n'en plus finir, etc. Et à la sortie, rien. C'est-à-dire que le patronat qui avait obtenu des plans acier en milliards de francs jusque 3-4 ans avant la fermeture des hauts fourneaux, refuse de négocier. Alors, il négocie ici un étalement, un plan social, etc. On a mis en pré-retraite des gens, ça faisait 37 ans qu'ils travaillaient dans les usines. Bon, enfin... On connaît ça là. Hein. D'ailleurs, ça a été, on parle beaucoup des violences aujourd'hui. Il y en a eu quelques-unes à cette époque-là aussi. Pour les mêmes raisons d'ailleurs, c'est-à-dire le sentiment qu'on s'est foutu de votre gueule jusqu'au dernier jour, donc ça crée des réflexes. Et à partir de là, il s'est dit dans la classe ouvrière que les syndicats étaient impuissants à endiguer des politiques de casse massive de l'industrie. Et entre 78 et 86, la France a perdu 1 million d'emplois industriels. Ça ne s'est pas fait en distribuant des bouquets de fleurs. Ça s'est fait avec un grand nombre de conflits et avec des casses monumentales dans la navale, compris dans le bâtiment, dans l'automobile aussi d'ailleurs, hein, dans la période qui a suivi, mais dans la sidérurgie, les effectifs sont passés de 100 à 10 en 15 ans. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, on le voit bien sociologiquement, c'est les ouvriers qui partent. D'ailleurs, les ouvriers sont aujourd'hui la catégorie sociale la moins syndiquée. Et tant qu'on ne les aura pas... qu'on n'aura pas trouvé les voies pour les faire revenir à l'action syndicale, les syndicats auront du mal. Ce n'est pas uniquement une question de taux de syndicalisation. En plus, les 8%, c'est une moyenne entre 15% dans le secteur public et les administrations et 5% dans le secteur privé.
Ta démonstration sur la longue durée est assez impressionnante. J'ai payé mon premier timbre en 62, moi, à la CFTC, et le dernier en 2002, à la CFDT. Donc il y a toute une période que j'ai vue, et je pense qu'il n'y a, vraiment rien acheté dans la démonstration. Simplement, peut-être qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui apparaît, qui est peut-être, enfin tu l'as souligné d'ailleurs, mais c'est la tradition platon du début jusqu'à la fin. Je crois que j'étais au congrès 64 et j'étais au congrès 70. On a eu l'impression en 64, effectivement, tout le système de la CFTC a été bousculé justement par cet apport de jeunes qui venaient de la guerre, de la résistance, etc. Je crois, j'ai analysé après, ce mouvement a été finalement contre toute l'organisation de la CFTC. Ça s'est fait un peu malgré nous. Et après, eh bien, les gens sont restés dedans. C'est ceux qui sont partis, finalement, la CFTC, ce n'étaient pas eux les conservateurs. Les conservateurs sont restés dedans. Se sont reconstruits. Et sont ressortis un peu après. On a vu mon maire évoluer. Au début, il accompagnait bien tout le monde. Il n'y a pas de problème. Moi, j'étais à l'époque autogestion, planification démocratique, tout ça. On était dedans, on était à fond. Et il y avait des gens qui sont maintenant. J'ai travaillé avec Jacques Chirac, le père de l'actuel, qui était secrétaire général de la Fédération de la métallurgie. Bon, ce gars-là, justement dans les années 80, quand il a commencé la catastrophe au niveau de la métallurgie, il est parti de la CFDT, il est parti comme préfet de l'emploi dans la région de l'Est. Donc il est parti dans le système politique pour aider finalement à la transformation des choses. Donc il me semble qu'il y a la CFDT, la CFTC à l'époque, c'est toujours elle qui est là finalement. Et il y a eu des gens qui ont bousculé le système. Et tu parles de Balancier, il y a eu un peu de Balancier. Ces gens-là finalement, ils sont sortis. Bon, ils sont à suivre. Bon, c'est un peu caricatural ce que je dis là, mais je pense que c'est un peu ça. Il y a une certaine pesanteur qui a fait que ce mouvement syndical, le mouvement syndical chrétien, il est resté de nature mouvement syndical pour la négociation. Il est rentré un mouvement social, mais en fait, il ne s'est pas implanté. C'est comme ça que j'ai vu les choses.
Oui. Bon, enfin, il faudrait réfléchir, c'est une... Je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment le maintien de l'ancienne forme CFTC à travers la CFDT. Je ne crois pas trop à...
Cet esprit, en tout cas, de ce que c'est la négociation. Bon, il y a un système établi, il y a des patrons, il y a des salariés, et il y a un espace de négociation, et on en revient là.
Bon, qu'il y ait eu une certaine, après la phase radicale, qu'il y ait eu une phase un peu de résignation au système capitaliste, sur l'idée, on ne le changera pas, il faut faire avec... tel qu'il est, pas tout à fait, parce que quand même, là-dessus, il y a eu une évolution. C'est-à-dire, au début, c'était la négociation comme moyen de transformer, comme levier de transformation. Et c'est devenu, après, bon, il suffit qu'on ait à la marge obtenu quelque chose pour qu'on puisse signer, tout va bien. Bon, ça a évolué, mais je ne sais pas si on... Parce que dans la CFTC des années 50-60, ils ne signaient pas n'importe quoi. Hein. On n'avait pas du tout cette attitude-là. Ils étaient durs en affaires. Hein. On m'avait rapporté un gars de la CFDT qui siégeait au Conseil national du crédit, c'est des instances paritaires dans lesquelles vous rencontrez beaucoup les patrons. Il était assis à côté de deux patrons, et il y en a un qui disait « Oh là, FO, c'est un syndicat qui nous a coûté cher quand même. » Et puis l'autre lui disait que « Oui, mais enfin, au moins avec FO, on pouvait signer des accords, tout ça. » Alors il disait « Oui, c'est vrai, mais on peut aussi signer des accords avec la CFDT, mais le problème, c'est qu'elle assure pas le service après-vente. » Et ça a été très longtemps un problème pour la CFDT dans les années 80-90, quand elle s'est mise à signer des accords, c'est que les employeurs, ils escomptaient qu'une fois que l'accord était signé, ils auraient la paix. Or, dès qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans l'entreprise, les types de la CFDT, ils étaient toujours là. Ils avaient à peine signé un accord que derrière, ils faisaient... Alors, ça, maintenant, c'est un peu réglé. Hein. Mais tu as eu toute une période comme ça où c'était pas si clair, quoi.
Non, mais c'est vrai, mais j'y étais, moi. À la CFDT, bon, dans les boîtes, oui, on se remet. C'était déjà pas tout à fait pareil au niveau des fédérations, des unions régionales. Moi, j'ai été élu à l'Union européenne, qui était une fois. J'étais jeune à l'époque. Je n'ai pas supporté. Non, non, on avait déjà l'appareil. Je crois que ce qui est important, c'est ce que tu as signalé au Congrès 70. On s'est vraiment fait avoir et on s'en est rendu compte qu'après, c'est la modification des statuts. Qui, entre parenthèses, aussi a permis, je dirais, de maintenir en place les appareils syndicaux nationaux. Parce qu'il y avait, une certaine règle qui voulait qu'on virait un responsable après 3 ans. Elle a disparu à l'occasion. On les a retrouvés 10 ans de suite, les mêmes. Donc, ça ne facilite pas le débat démocratique. Et c'est vrai, il y a eu un moment où, mais aujourd'hui, enfin moi, si j'ai gardé ma carte de chambre de deux, c'est dans la section syndicale où j'étais, on se faisait encore du boulot. Moi, j'avais été envoyé à l'Escort, j'étais plus dans l'équipe syndicale, et les copains qui étaient là faisaient du bon boulot au niveau local. C'était pas ça le problème. Mais le problème, c'est que l'appareil, maintenant, est devenu monolithique et on ne peut plus toucher, quoi.
Oui.
J'ai deux petites questions. Une qui rejoint celle de mademoiselle, deux questions, et celle qui rejoint celle de monsieur. En termes de stratégie, on parlait de stratégie tout à l'heure, de la volonté de la d'une masse, toute cette masse, travailleuse, travailleuse, d'émancipation qui existe, une quête, la grâce, on commence à se lutter qui n'existe pas vraiment, celui qui nous a fait bouger longtemps, en tout cas nous ancien. Est-ce que tout compte fait, on a acheté des bombes et que, on ne veut pas le dire, y compris au niveau des syndicats et des partis politiques, et qu'on nous dit, bah, écoutez, on ne vous le dit pas comme ça, on va vous donner l'impression de faire joujou, de faire un mur, mais d'un autre côté, on a eu l'impression d'élaborer des stratégies, des plans, des machins, ou alors, la première question. Je vous pose la deuxième tout de suite, ou alors, je pense que je vais la poser tout de suite. Alors, donc, ensuite, la deuxième question est la suivante. En termes philosophiques, c'est vrai qu'à une certaine époque, on était plutôt dans la métapsychologie, on avait des choses qui étaient faisables ou pas faisables. Alors là, clairement, c'est-à-dire qu'on avait des idées ou des phénomènes qu'on a arbitrairement ou parce qu'elles étaient impossibles à ce moment-là et dans ce temps-là, stop, c'était pas la peine d'en parler, c'est même pas la peine, on en était là, quoi. Et puis on arrivait maintenant dans la phénoménologie où on étudie le phénomène, donc on n'apprend rien en tant que phénomène, et à partir de là, on se dit, bah, peut-être que, après tout, étudions-le, on verra après. Cette philosophie, qu'on fait, on est tous dedans en ce moment. Einstein serait là, il dirait peut-être. Et donc, cette philosophie-là, et donc cette politique, qu'on fait, parce qu'elle existe encore, la politique, vraiment, je ne suis pas là-dessus, je ne sais pas la politique, vraiment, le problème, c'est qu'on en fait, c'est une logique. Mais, cette politique-là, cette philosophie-là, est-ce qu'on court après ? Est-ce qu'on est là parce qu'on court après ? Ou est-ce que, encore, cette politique-là, c'est un nouveau modèle, donc en gros issu de toutes celles d'avant, y compris de tous les acteurs, et qui, en fait, est toujours mené, toujours plus ou moins pareil, pour passer, en fait, de deux gros pôles, en gros, le pôle où on va essayer de. Qu'on fait de nous faire attendre un petit peu ou alors de nous faire un petit peu bouger. Tout ça pour en fait créer une sorte de résistance qui va régler ou permettre au système de fonctionner sans s'emballer. Enfin, un peu l'autre, mais voilà. Je ne vais pas l'enlever. Après, j'ai une question.
Non, mais vous pouvez. Hein, mais non, je ne sais pas si j'ai bien compris la seconde, mais il me semble qu'elle est quand même assez proche de la première.
Oui, non. Elle est proche, mais je voulais aller
dans je comprends.
L'élargir au champ philosophique et politique qui m'avait semblé qui était enterré un peu violemment, à mon sens, pour moi.
Non, mais je comprends. Moi, je crois qu'il y a, la question de fond, c'est un peu la question du travail. Enfin, il y a plusieurs questions, mais il faut voir les dégâts qu'ont fait la crise, quand même, la crise des années 80-90 sur le syndicalisme. Parce qu'il n'y a pas eu ce renouvellement. Hein. On a parlé tout à l'heure, tu le disais aussi, Claude, là, le renouvellement qu'avaient provoqué les gens de la résistance, etc. Le renouvellement encore provoqué par mai 68. Hein, c'est mai 68 a renouvelé les engagements, le stock des engagements et le moteur des engagements. Et il n'y a plus de génération, il n'y a pas de génération 80. Il n'y a pas de génération 90 dans le syndicalisme. Donc on n'a pas ce. Et qu'est-ce qui s'est. Il s'est ossifié des appareils en perte de légitimité et un certain nombre de problèmes qui ont été écrasés par la crise. Et les problèmes sur lesquels, là, on retombe sur vos interrogations philosophiques, mais je crois que le problème de fond qu'il y a et qu'il y avait aussi dans l'engagement, notamment des ouvriers, c'est la question du travail. Parce que, pendant très longtemps, y compris l'engagement syndical, était sous-tendu par une certaine volonté d'exister dans le travail. Et que le syndicat, c'était pas seulement le lieu où on défendait des revendications, mais le lieu où on pouvait aussi composer un certain lien social dans le travail, une reconnaissance, un mode d'identification... Et que le syndicat jouait ce rôle-là. Il y a une phrase que je cite de temps en temps de George Friedman, le sociologue français, qui disait: il faut voir ce que le syndicat représente pour l'ouvrier dans l'usine, pas seulement un lieu de revendication, mais aussi un lien humain pour se repérer dans la jungle industrielle. Alors aujourd'hui, c'est encore qu'il y a encore des jungles industrielles, hein, mais enfin, si on prend l'univers de travail plus généralement, le syndicalisme ne joue plus ce rôle de boussole collective, quoi. Mais parce que les employeurs, ils ne sont pas restés les mains dans les poches par rapport à ce rôle du syndicalisme. Quand on voit le redécoupage des entreprises, comment les services sont mis en compétition les uns avec les autres, comment le patronat depuis 30 ans joue l'individualisation, non seulement des salaires, mais de la carrière, de la compétence à la place des qualifications, enfin tout ce discours de l'individu, du capital humain, etc. Les syndicats sont complètement largués, ils n'arrivent plus à constituer l'entité collective qui permettait aux gens de se situer ailleurs et de revendiquer quelque chose sur leur travail. Et la question de l'emploi a écrasé les questions du travail. Et les syndicats, là-dessus, aujourd'hui, ils sont perdus, quoi. Ils n'arrivent plus. Et je pense que par rapport aux... Enfin, je parlais des ouvriers, mais plus globalement, disons, tout le monde des agents qui sont plutôt au bas de l'échelle des travailleurs, enfin au bas de l'échelle, il n'y a pas d'échelle, mais qui sont dans les emplois d'exécution ou dans les emplois précaires, etc., ils ont du mal à pouvoir se projeter dans le syndicat parce qu'ils n'apportent plus ce rôle de création de sens qu'ils pouvaient avoir à un moment donné pour les ouvriers qui se repéraient dans leur entreprise, etc. Et ça, c'est difficile à reconstituer, parce que c'est pas seulement une crise des syndicats, c'est une crise du travail aussi.